France Musique.
C'est l'heure de la chronique de Christophe Dillis. Tendez l'oreille.
France Musique est à vous.
Donnez-moi dans l'ombre.
Que voulez-vous ?
Une viole. Donnez-moi une viole !
Le maître va jouer. Il faut une viole pour Monsieur Marais.
Donnez la vôtre. Poussez-vous.
Ah, la voix de Gérard Depardieu. Bonjour Christophe.
Bonjour Gabriel.
Deuxième épisode de votre série de fact-checking de films musicaux après Impromptu la semaine dernière sur Chopin. Tous les matins du monde, d'après le roman de Pascal Quignard avec Gérard Depardieu donc, en Marin Marais, et Jean-Pierre Marielle en Monsieur de Sainte-Colombe.
Voilà, direction le XVIIe siècle avec un monument de la littérature et du cinéma français. Tous les matins du monde, c'est le film qui m'a rendu musicien baroque, qui a initié le grand public de 1991 à la viole de gambe et qui a modelé le goût des auditeurs pour une musique baroque austère, janséniste, jouée seule dans l'obscure clarté d'une bougie dans un petit cabinet en planches de mûrier. Parler de Tous les matins du monde, j'avais envie de le faire depuis longtemps, depuis mon arrivée ici sur France Musique, quand, pour mon premier rendez-vous avec les directeurs, j'avais gratté à la porte.
Qui est là, qui soupire dans le silence et dans la nuit?
Un homme qui fuit les palais, qui recherche la musique.
Le livre et le film Tous les matins du monde racontent peu de choses. Monsieur de Sainte-Colombe, janséniste et gambiste, donc joueur de viol de gambe, reconnu et célébré, perd sa femme en 1650 et, depuis, élève comme il peut ses deux filles. En 1672, le jeune Marin Marais, récemment dégagé de la maîtrise de Saint-Germain-l'Auxerrois, après la mue de sa voix, brave les réticences de Sainte-Colombe.
Je ne pense pas que je vais vous admettre parmi mes élèves.
Dites-moi pourquoi ?
Vous faites de la musique, monsieur. Vous n'êtes pas musicien.
Attendez, père, attends !
Et parvient à devenir son élève pour 6 mois. Sainte-Colombe finira par le congédier, fâché qu'il s'amuse à faire de la musique pour la cour. Et son éducation musicale n'étant pas terminée, Marin Marais continue à s'introduire en cachette dans la demeure des Sainte-Colombe pour prendre des cours avec la fille aînée avec qui il aura une liaison et un enfant mort-né et pour écouter son ancien maître jouer à travers les planches. Le temps passe, Marin Marais s'éloigne de cette famille pour se consacrer au faste de la vie musicale de Versailles. Mais hanté par le souvenir de Sainte-Colombe, Marin Marais revient pour une ultime leçon de viol.
Monsieur, puis-je vous demander une dernière leçon ?
Monsieur, puis-je tenter une première leçon ?
Et donc alors, qu'est-ce qui est vrai, Christophe ? Qu'est-ce qui est faux ?
Ça, Gabriel, je vais pouvoir vous répondre très facilement. Tout ce que nous savons de Monsieur de Sainte-Colombe tient facilement dans une petite poignée de feuillets imprimés au XVIIe et XVIIIe siècle. Il nous reste ses partitions, quelques témoignages de ses élèves, quelques mentions de son jeu dans les traités de viol et un paragraphe dans le Parnasse français de Titon du Tillet en 1732, qui est une sorte de who's who des poètes et des musiciens. Partons de ce qui est vrai. Sainte-Colombe avait effectivement 2 filles.
Il donnait même des concerts chez lui où 2 de ses filles jouaient, l'une du dessus de viol et l'autre de la basse, et formaient avec leur père un concert à 3 viols.
Par contre, le roman ne mentionne pas son fils, gambiste, parti vivre à Londres, ni que les vrais prénoms des filles étaient Brigide et Françoise, et non Toinette et Madeleine, comme dans le film. Tout ce qui est dit dans le roman sur la technique de la main droite, celle qui tient l'archer, et sa capacité à reproduire la voix humaine, on le retrouve attribué spécifiquement à Sainte-Colombe dans les traités de viol de gambe de l'époque. Le fait que Marin Marais s'introduise discrètement dans la demeure des Sainte-Colombe pour continuer son éducation interrompue est absolument exact, encore une fois, dans le Parnasse français.
Et comme il avait quelques accès dans sa maison, il prenait le temps en été que Sainte-Colombe était dans son jardin enfermé dans un petit cabinet de planches qu'il avait pratiqué sur les branches d'un mûrier. Marais se glissait sous ce cabinet, il y entendait son maître et profitait de quelques passages et de quelques coups d'archet particuliers que les maîtres de l'art aiment à se conserver. Mais cela ne dura pas longtemps. Sainte-Colombe s'en étant aperçu et s'étant mis sur ses gardes pour n'être plus entendu par son élève.
Pour Quignard, il s'agit en fait de montrer la rencontre entre le vrai Marin Marais et le quasi-fictif Monsieur de Sainte-Colombe. À partir de quelques petits faits, Quignard construit Sainte-Colombe, lui donne des traits de caractère, la perte de sa femme, toute la douleur liée à la perte de sa femme, toute sa philosophie janséniste et austère, sa vision de la musique, etc. pour pouvoir écrire, alors plutôt qu'une biographie, un essai sur l'atmosphère culturelle en plein changement entre Louis XIII et Louis XIV. La rencontre entre jansénisme et catholicisme, faste et austérité, musique profonde et musique de divertissement. Son style est si convaincant, je pense que Quignard a donné naissance, selon moi, à toute une génération d'auditeurs pour qui la musique baroque c'est surtout ça. L'humilité, les soupirs et les pleurs solitaires de la viole de gambe de Sainte-Colombe et de Jordi Savall, plutôt que la pyrotechnie de la musique de cour de Maramaré. Alors si vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder ce que j'ai mis sur la page de Tendez l'oreille, notamment une comparaison entre les peintures de Lubin Bogin et les plans du film.
Rendez-vous donc sur la page de Tendez l'oreille sur francemusique.fr. Merci Christophe Dillis, je vous dis à la semaine prochaine.
Bonne semaine.
À réécouter sur francemusique.fr.